Sois poli, sois joli, ne ris pas trop fort, juste un peu. Tiens-toi bien, ne bois pas trop, mais un peu quand même. Cache-toi pour manger, c'est Ramadan. Démaquille-toi pour avoir l'air pâle. Attends, montre. Mais tu ressembles à rien, maquille-toi. Fais voir tes belles jambes, baisse les stores. Fais comme si tu étais pieuse, comme si tu aimais faire l'amour. Comme si tu n'étais pas toi.
Voix,
Lucie Bouteloup.
Cilia est une jeune Marocaine issue de la classe aisée de Rabat et qui vient faire ses études en France. À Paris, elle croit trouver la liberté et se défaire des carcans imposés par la tradition, mais ça se passe pas tout à fait comme prévu. L'Archouma est le récit d'une quête d'identité et de liberté. C'est votre premier livre, Dounia Adni. Il est publié chez Albin Michel. Bonjour.
Bonjour Lucie.
Alors L'Archouma, Dounia Adni, c'est donc le titre de votre roman. Le mot apparaît très souvent dans votre livre. En français, on le traduit assez rapidement par la honte. Pourtant, c'est bien plus que ça au Maroc.
Oui, en réalité, la chouma, c'est plus une culture. Alors, ça veut dire la honte, mais ça veut dire aussi la pudeur, la peur du regard de l'autre. C'est un mot qui est très... très biaisé parce qu'on a tendance à y confondre beaucoup de choses. On a tendance à y mêler le respect des aînés, les valeurs de respect, d'attachement aux traditions, alors que, en réalité, c'est juste une façon de castrer et d'empêcher les gens de s'exprimer.
Elle est présente tout au long de la vie des Marocains. C'est quelque chose qui imprègne vraiment la culture.
Oui, c'est quelque chose qu'on entend depuis tout petit, toute petite, de 10 20 fois par jour, et c'est très... En plus, c'est jamais hiérarchisé. C'est-à-dire qu'on peut l'entendre sur tout et n'importe quoi. C'est chouma de s'habiller comme ça, c'est chouma de contredire un tel, c'est chouma de dire non, c'est chouma... En gros, les chouma, ça nous conditionne à tout faire pour faire plaisir à l'autre, à autrui, quel que soit cet autrui, quelles que soient ses attentes. Et du coup, on s'oublie forcément et ça pose plein de questionnements, notamment sur le consentement, puisqu'on ne nous apprend pas à pouvoir dire non.
Alors, le livre s'ouvre sur le décès de Dada, c'est le grand-père de Cilia. Et pour l'occasion, tous les membres de sa famille sont réunis. Une famille qui, à première vue, semble plutôt ouverte et progressiste. On boit de l'alcool, les femmes fument, elles se maquillent. On raconte même des blagues salaces. Mais on comprend assez vite que cette ouverture, elle a des limites.
Elle a des limites parce que elle est construite sur des faux semblants en permanence. C'est-à-dire que moi, ce que je dénonce aussi, ce que j'essaie de dénoncer de l'intérieur, c'est l'hypocrisie de la classe bourgeoise, enfin la classe, l'élite marocaine, qui, parce qu'elle a de l'argent, trouve toujours des parades. D'ailleurs, c'est le titre de ma première partie, les parades. Donc, quand on a de l'argent, bien sûr qu'on va trouver les moyens de contourner les interdits. Et c'est très hypocrite, puisque ces interdits-là sont maintenus par cette classe sociale, donc par la famille de mon héroïne qui s'appelle Cilia.
Il y a toujours moyen de s'arranger quand on a les moyens,
Quand on a les moyens, oui.
On s'arrange avec ses valeurs.
Oui, mais du coup, qu'est-ce qui se passe pour ceux qui n'en ont pas? Enfin, c'est ça.
En tout cas, pas question de parler de l'homosexualité, par exemple, surtout quand ça pourrait concerner un membre au sein de la famille. Et puis, pas question non plus de parler de l'intimité.
Oui, on n'en parle pas, c'est tabou, et donc c'est très difficile de se construire quand les choses ne sont pas nommées. Donc l'amour, la sexualité est un impensé en fait, alors que ça existe depuis qu'on est.
Alors justement, ça infuse jusque dans la langue, et j'aimerais vous faire lire un premier extrait de votre livre. C'est donc page 44.
Dans ma langue maternelle, la Darija, le dialecte marocain, on ne fait pas l'amour, mais un homme prend une femme ouvre les jambes. L'homme dispose de la femme qui est disposée à. Tout ce qui évoque la sexualité est vulgaire, violent, et façonne très tôt les représentations et les imaginaires sexuels. Ma langue ne côtoie pas non plus l'intimité. Dépourvues de mots pour les nommer, comment ces choses peuvent-elles exister pour nous? Elles sont forcément reléguées à la clandestinité, à la chouma et au danger.
Alors, cette chouma, elle est très insidieuse, hein, puisque même si Cilia en est consciente, même si elle dénonce cette forme de violence, elle l'intègre malgré elle.
Elle l'intègre malgré elle et elle la reproduit. C'est-à-dire que, pour donner un exemple concret, sa mère, la mère de Cilia, la traite de pute parce qu'elle découvre, alors que Cilia a 20 ans, elle découvre dans sa salle de bain des tampons. Et donc, ça a été vraiment un moment traumatique pour Cilia, qui s'est jurée de ne jamais reproduire ça. Et en fait, quelques années après, elle, alors qu'elle tombe sur des préservatifs de chez sa sœur, c'est sa jeune sœur, et ben elle la traite de tous les noms également. Et en fait, ça, elle ne s'en remet pas, Cilia, parce qu'elle se rend compte que cette chouma s'est tellement incrustée dans sa chair et dans sa tête que malgré elle, voilà, elle est en elle et elle la retransmet, elle la transmet. Et finalement, ce que j'essaie de dénoncer dans ce livre, c'est quelque chose de systémique. C'est pas forcément lié à des individus. C'est comment ça nous touche tous et toutes collectivement.
Et puis, au-delà des mots qui n'existent pas, il faut aussi contrôler ce qu'on dit. On peut pas déborder, il faut se contenir. C'est très important, hein.
Il faut se contenir, et je pèse mes mots, dressés en fait, surtout dans cette classe, dans la classe bourgeoise dans laquelle Cilia évolue, les apparences sont plus importantes que tout. Ce que pense le voisin ou les amis des amis ou les amis de la famille est beaucoup plus important que tout le reste, quoi. C'est vraiment, c'est un espèce de culte, c'est érigé presque en espèce de religion, c'est même parfois plus important que ça.
L'Archouma, votre roman, Dounia Adni, on continue d'en parler juste après Loose and the Yakuza.
La nostalgie me prend au cœur quand je me regarde à travers le miroir. Qu'est-il arrivé de ce noir, à nous qui détestions pourtant la PACA, mon tendre ami me brise le cœur. J'ai plein de larmes coincées dans mes mouchoirs. Qu'est-il arrivé de ce noir? Une douche de stress dans ma tête, ça m'affecte comme un tourbillon, un tsunami, une tempête. La peine me transperce jusqu'à mon squelette. Oh Lord, I've never seen that before. You've blamed it on me. I've never seen that before. You're so selfish. Was it worth it? There's nothing to hold on to. I hope that it all works out for you. You've blamed it on me. Oh, good to know. Est-ce que les morceaux d'un cœur brisé peuvent se casser? Est-ce que les miettes d'un cœur peuvent encore être mangées? Je me demande ce qui se serait vraiment passé si on s'était dit tout le fond de notre pensée. La folie des non-dits et des paroles en vie. La manie de mentir pour se jeter la pierre. On se fonça et poli, on ne sait plus quoi faire. J'ai envie de partir. Une douche de stress dans ma tête, ça m'affecte comme un tourbillon, un tsunami, une tempête. La peine me transperce jusqu'à mon squelette. Oh Lord, I've never seen that before. You've blamed it on me. I've never seen that before. You're so selfish. Was it worth it?
Loose and the Yakuza avec Good to Know. Et oui, c'est bon à savoir, vous êtes toujours sur RFI dans De Vive Voix avec Dounia Adni pour nous parler de son premier roman, L'Archouma. Alors, il y a une autre chose que Cilia ne supporte pas au Maroc, c'est la ogra. Qu'est-ce que c'est la ogra, Dounia Adni?
Alors, la ogra, c'est le mépris de classe. C'est quelque chose qu'elle ne supporte pas puisqu'elle l'a vu à l'œuvre dans sa propre maison, dans son domicile familial. C'est-à-dire que Cilia, elle a grandi avec une nounou, avec un chauffeur, avec des femmes de ménage. Et ce sont des personnes qui comptent énormément pour elle.
Qui font presque partie de la famille.
Mais qui ne mangent pas à sa table, qui ne dorment pas dans la même qualité de matelas. Donc, et puis, ils sont payés quand même à être là et à lui donner de l'amour aussi, même si cet amour-là, il est réel. Ça reste complexe. Enfin, ils sont là quand même pour la servir, pour servir ses parents. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans la société marocaine, qui est une société très inégalitaire et qu'elle a du mal à assumer, même si elle en profite. Et c'est là tout le paradoxe, toute la complexité aussi du personnage de Cilia. C'est comme ça qu'on commence à l'appréhender, je pense. Et puis surtout, quand elle arrive en France, c'est à ce moment-là qu'elle se rend compte à quel point elle a pu mépriser aussi ces gens qui font partie des gens qu'elle aime le plus. Et parce que en fait, elle voit pas, elle se rend compte qu'il n'y a jamais eu de mixité. La mixité qu'elle rencontre et qu'elle appréhende en France, elle n'a jamais pu la vivre au Maroc. Parce que les riches restent avec des riches, les pauvres fréquentent les pauvres. Et puis, quand ils entrent en interaction, c'est jamais vraiment... Enfin, ils se frôlent, quoi. C'est toujours... c'est jamais un rapport qui est horizontal.
Alors, Cilia, elle va parler de tout ça avec sa famille, hein, qui finit par lui dire qu'elle ne peut pas comprendre, puisque, dans le fond, elle n'est plus marocaine, comme elle a quitté le Maroc et qu'elle vit en France pour ses études. Et ça, c'est quelque chose qui est très violent, qui est très dur à entendre pour elle.
Oui, c'est très violent et c'est insupportable pour elle parce que oui, Cilia est en colère, on le sent. Enfin,
déjà, il y a une première rupture.
Tout à fait, il y a une première rupture qui était vraiment déjà très, enfin, latente. Et elle est très en colère contre le Maroc, contre sa famille, sa classe sociale. Et en fait, pour elle, la colère, c'est de l'amour. Parce que si elle est en colère, c'est parce qu'elle ne supporte pas de voir c'est son pays, les Marocains traités de la sorte et que personne ne bouge, personne dans son entourage ne bouge. Alors après, elle ne fait pas grand-chose, elle est jeune, donc elle, à ce moment-là. Mais oui, ça c'est... Et puis même moi, en tant qu'autrice, c'est quelque chose à laquelle on me renvoie fréquemment. Tu es partie, pourquoi tu parles du Maroc dans ton livre? Qu'est-ce que tu connais du Maroc? Tu n'es plus marocaine Mais en fait, non seulement je suis marocaine, mais je le suis peut-être, j'aime peut-être plus mon pays que certains qui sont restés, et voilà.
Alors, c'est d'autant plus difficile pour Cilia qu'en France aussi, elle a du mal à trouver sa place. Et elle se retrouve d'ailleurs à endosser un nouveau rôle pour pouvoir s'intégrer. En fait, elle a l'impression de se désintégrer, notamment avec son mari qu'elle va épouser à 23 ans, ce qui est très jeune. Hein, mais toujours pour cette même raison de rchouma, où elle veut faire plaisir à sa famille. On n'a pas besoin de lui mettre un couteau sous la gorge. Elle l'épouse, elle épouse cet homme qu'elle aime pas, et puis finalement, elle trouve pas sa place.
Oui, elle trouve pas sa place. Elle trouve pas sa place non plus quand elle est en prépa littéraire, et puis quand elle est dans un journal de gauche où, soi-disant, les gens sont brillants et ouverts d'esprit. Alors, brillant, ça c'est sûr, ouvert d'esprit, c'est moins sûr. Elle est renvoyée toujours, en fait, à des clichés, à des préjugés.
C'est quoi, justement, ces nouveaux clichés, ces nouvelles injonctions auxquelles elle est confrontée?
Ça passe parfois par des regards approbateurs. Quand, par exemple, elle boit de l'alcool avec ses collègues à des pots, ou que elle mange du porc, ou alors qu'elle s'exprime sans accent, on va toujours la regarder avec un air, l'air de dire « Ah ben, tu es comme nous, tu es comme nous ». Et en fait, cette espèce de tendance à avoir l'assimilation partout, c'est très dangereux. En tout cas, elle le vit très mal, parce qu'en réalité, ces codes-là, elle les avait déjà bien avant d'arriver en France, puisqu'elle a grandi dans la double culture. Et puis, elle n'avait pas, elle avait, enfin pour elle, elle n'a pas le sentiment en fait de d'avoir changé ou d'abandonner ses origines ou de mettre de côté ses valeurs et puis sa culture marocaine et notamment la religion musulmane, parce que malgré ça en fait elle est musulmane. Et d'ailleurs elle le dit à un moment donné où elle pète les plombs au journal parce qu'elle ne, enfin voilà, on décrète pour elle qu'elle n'est pas musulmane, et ça c'est aussi une violence, surtout dans le contexte actuel.
Et puis, elle a l'impression qu'elle ne rentre pas dans la case de la diversité. Elle est trop riche, en fait.
Elle est trop riche pour être dans un journal de gauche. Et voilà, oui, ça aussi, ça dérange parce que, encore une fois, on la prive de toute sa complexité. Et c'est ça, elle est sans cesse ballottée et elle ne se trouve pas, puisqu'elle est toujours diminuée dans le regard de l'autre, que ce soit au Maroc ou en France, ou quel que soit le milieu.
Comment trouver sa place quand on est tiraillé entre deux cultures ?
Je sais depuis toujours et indéfiniment que je suis un homme à l'identité mélangée et composée. Il y a tout ça dans mon identité, le Liban, la France, l'Europe, le monde arabe, l'Occident, la Méditerranée. Et bien d'autres choses. Tout cela fait partie de mon identité. Je suis immigré ici comme je le serai partout. Je suis étranger ici comme je le serai partout et nulle part. Je crois que d'abord, je ne cherche pas vraiment à me situer. En même temps, depuis l'enfance, j'ai un contact avec l'Occident, d'abord par l'école, puisque j'ai fait toute ma scolarité dans des écoles françaises. Et à 27 ans, je suis venu m'installer en France. Donc, je devais constamment, que ce soit au Liban, que ce soit en France, m'adapter à cette réalité toute simple, mais jamais très simple, qui consiste à être un peu différent des autres, un peu différent de ceux qui sont autour.
C'est l'auteur franco-libanais Amine Malouf qu'on vient d'entendre. Qu'est-ce que vous pensez de ce témoignage, Dounia Adni?
C'est un témoignage bouleversant. De toute façon, Amine Malouf, enfin, c'est pas pour rien que j'ai choisi de mettre en exergue un passage des identités meurtrières de Amine Malouf, parce que je trouve qu'il parle tellement bien, avec tellement de justesse et de complexité de cette notion d'identité. Moi, à chaque fois que je relis les identités meurtrières, j'ai vraiment l'impression que ça me fait réfléchir toujours plus en profondeur. C'est dans les identités meurtrières aussi, d'ailleurs, pour rebondir sur ce qu'il vient de dire, il précise aussi que la meilleure façon en fait d'intégrer la culture d'origine d'intégrer un immigré à la culture du pays d'accueil, c'est de respecter sa culture d'origine. Et ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à perdre malheureusement de plus en plus dans la société française. Et je pense que ce serait bien de lire et de relire Amine Malouf encore plus aujourd'hui.
Mais est-ce que vous vous sentez aussi différente un peu partout ?
Oui, tout à fait. Je partage totalement cette espèce de décalage. Mais ce décalage aussi est intéressant pour écrire. Ça permet d'avoir toujours un peu de distance par rapport aux situations et toujours de vraiment d'essayer d'accorder le plus de complexité à ces personnages.
Alors, votre roman L'Archouma est autobiographique, hein, on s'en doute. Vous aussi, vous avez dû faire face à des injonctions contradictoires. Comment est-ce que vous vous en êtes sortie? Est-ce que vous vous en êtes sortie?
Alors, c'est un roman, même si en effet, il s'inspire de pas mal d'épisodes de ma vie. Je suis toujours un peu gênée quand on me pose cette question, parce qu'en réalité, moi, j'ai écrit ce roman pour avoir des réponses. Et en fait, j'ai eu d'autres questions qui se sont posées.
Lesquelles ?
C'est-à-dire que je n'ai pas de réponse. Je ne peux pas vous dire si Cilia s'en est sortie ou pas. Mmh. Ça, c'est vraiment au lecteur de l'appréhender comme il le ressent. C'est Kundera aussi qui disait à Philippe Roth dans des entretiens « Le roman n'affirme rien, il pose des questions, il n'apporte aucune réponse. » Et moi, je m'inscris totalement là-dedans. Je préfère vraiment laisser le livre et puis se connecter au lecteur.
Alors, à force d'être tiraillé entre ces injonctions contradictoires, pour être à la fois une bonne Marocaine et une bonne Parisienne, Cilia finit par craquer. J'aimerais que vous nous lisiez un autre extrait de votre livre. Elle vient d'être internée à l'hôpital psychiatrique Sainte-Anne à Paris.
Au moins, ici, à Sainte-Anne, Même si j'ai peur, la parole brute, sans filtre et quasi organique de mes camarades m'insuffle un élan vital. Pas de faussaires, que des originaux. Dans ce sas, les mots sont davantage lestés de leur sens que n'importe où ailleurs. Toi, je t'aime bien. Toi, je t'aime pas. Merci. Ça va, ça va pas. Oui, non. Tu fais chier. Tais-toi. Quand on parle, c'est direct, cash, impulsif. Vrai, comme si on était dans une urgence permanente, pressé par le temps alors que nous n'avons que ça, du temps. Rien à voir avec toutes les parades qu'on m'avait inculquées.
Dounia Adni, quelle parole vous pratiquez-vous le plus aujourd'hui ? Cette parole directe ou vous utilisez encore des parades ?
C'est une très bonne question. Je pense que j'essaye vraiment d'être la plus sincère possible. En tout cas, dans mon écriture, je pense que ça se ressent à la lecture du roman. Et c'est vrai que là, pour le coup, cette expérience en hôpital psychiatrique, je l'ai vécue moi-même à Sainte-Anne il y a quelques années. Et c'est vrai que ça a changé mon rapport aux autres et mon rapport aussi à la temporalité. En fait, je suis pas dans une urgence, mais je suis un peu je me censure plus. C'est-à-dire que voilà, je dis les choses telles que je les pense, telles que je les ressens. Je doute beaucoup, énormément. Quand j'écris, je doute tout le temps. Et puis là, je vous parle et je doute. Et je trouve ça super. En fait, je trouve qu'on est trop oppressé en ce moment. Enfin, de nos jours, on doit toujours avoir une position sur tout, une réponse à tout. Et moi, je n'ai pas envie de rentrer là-dedans.
Alors, ce livre, il est écrit en français. Il y a aussi beaucoup de mots arabes. Dans quel contexte vous les utilisez ?
Alors, c'est intéressant parce que c'est dans un contexte où je n'arrive pas, où je ne peux pas les traduire. C'est-à-dire que c'est trop complexe pour que ce soit traduisible. Et c'est venu assez naturellement.
Ouais. Donc, vous vivez avec ce mélange, avec ces deux langues côte à côte. Au Liban aussi, on mélange les langues. C'est l'heure de la chronique Façon de parler. Vous reconnaîtrez sûrement la journaliste qui la présente.
Façon de parler, hein.
Façon de parler.
Façon de parler.
Hi, Kifak, ça va ? Aujourd'hui, je vous propose un petit cours de franc-banais. Vous savez, c'est le français qu'on parle au Liban, celui de tous les jours, pas le français académique qu'on apprend dans les nombreux lycées français du pays. Alors, il faut préciser qu'au Liban, près de 40% de la population est francophone. Une tradition héritée du mandat français au début du XXe siècle. Le franc-banais, donc, c'est une langue bien vivante à la croisée de deux cultures. Un français sauce piquante, agrémenté de dialectes libanais et aussi parfois un peu d'anglais. Alors pour en parler, j'ai rencontré Mia, Jade et Naila dans un café parisien juste avant une virée shopping. L'occasion de parler chiffon, mais pas que. Façon de parler spécial franc-banais, yalla, c'est parti. Bonjour.
Bonjour Reine.
Bonjour Reine, mais pourquoi est-ce qu'on dit bonjour Reine ?
Ça veut dire de bonjour.
Bah, en fait, ça reflète un peu la générosité libanaise. C'est comme si moi, tu veux me donner un truc, je te donne deux à la place. Tu me dis bonjour, je te dis deux bonjours et non pas un seul bonjour. Bah voilà, bonjour, bonjour Reine.
Ah, tu me souhaites deux fois une bonne journée, c'est
exactement,
chouette.
Exactement, exactement.
Merci alors.
Merci Ktir.
Merci Ktir. Alors merci Ktir, qu'est-ce que ça veut dire ?
Bah, le merci Ktir, c'est tout simplement merci beaucoup. Donc merci en français, Ktir en arabe, merci Ktir. Et sans oublier de prononcer le R en R, merci Ktir.
Alors qu'est-ce que vous voulez boire, Jade, Mia et Naila ?
Moi je vais prendre un café, mais je vais surtout prendre un croissant au chocolat.
Ah, un croissant au chocolat, pour dire un pain au chocolat quoi.
Non, c'est un croissant au chocolat.
Donc tu prends un café, ok. Alors est-ce qu'on dit un café au Liban aussi ?
On peut dire un café, Naila. Mais normalement au Libanais c'est le ahwe. Je vais prendre un ahwe. Mais par contre on vient dans un café. On dit on va aller dans un café prendre ahwe. Mais on dit café au lait. On ne dit pas ahwe ma halib, on dit café au lait. Donc ça dépend ce que tu vas commander. Donc voilà.
Alors toi qu'est-ce que tu vas prendre Naila ?
Moi je vais bien prendre parce que je mâche un chewing-gum ou un mastic.
un mastic.
Voilà.
Un mastic un peu comme le verbe mastiquer, quoi.
Voilà, exactement. Donc, je prends un mastic, c'est bon.
Donc, pas de café pour l'instant. Non. Pas de highway pour l'instant. Alors, est-ce que tu peux me dire, par exemple, Naila, toi, comment t'es habillée?
Oui, alors, les chaussures, là, on dit, ce sont des espadrilles. Ce sont des baskets, les espadrilles comme baskets, si vous voulez. Et je mets un pantalon, au Libanais on dit c'est pantalon, mais c'est bantalon.
C'est-à-dire il y a un B devant.
Oui, voilà, il y a un B à la place du P.
Et toi Mia, qu'est-ce que tu as à tes pieds?
Alors moi je porte des escarbinets, c'est des escarpins au Liban. Et pareil, un bantalon.
Et qu'est-ce que vous allez chercher? Qu'est-ce que tu vas chercher toi Jade, donc au salon du vintage là?
Moi je vais chercher une jaquette.
Une jaquette, alors c'est une veste en fait?
Bah oui.
Et du coup, vous dites jaquette en anglais?
Oui.
C'est habituel donc du coup de mélanger le français, l'anglais et l'arabe, Jade?
C'est très naturel, c'est très normal. Par exemple, je te dis « Hi, kifak, ça va ?»« Hi, c'est anglais, kifak », c'est-à-dire « comment ça va au Libanais ?»« Et ça va ?» Bah voilà. Donc c'est très normal, il n'y a pas de rules, bah voilà, il n'y a pas de rules, il n'y a pas de loi. On parle comme ça, c'est un peu comme ça.
C'est une sorte de millefeuille, en fait.
Exactement, tout à fait.
Nous, les jeunes, les adolescents, on utilise plutôt le français ou l'anglais que l'arabe. Donc, voilà, je pense que c'est à cause des réseaux sociaux et tout ça, donc c'est pour cela.
Surtout le français, parce qu'il y avait les Français qui étaient au Liban. Donc, au cours de leur séjour, il y a pas mal de Libanais qui ont pris pas mal d'expressions françaises. Et entre deux guillemets, on les a libanisés.
Alors toi, tu dis entre deux guillemets.
Bah oui. Par exemple, là, je vais terminer mon café et je vais au garage parce que j'ai un problème dans le chambellier de la voiture. En fait, le chambellier, c'est un mot aujourd'hui qui est plus ou moins arabe. On comprend tous c'est quoi chambellier. Mais en fait, c'est le chambre, c'est la chambre à air de la voiture.
Chambellier.
Ça devient chambellier au Libanais. Et puis ça c'est un peu drôle parce que quand on commande un truc à boire, un cocktail, un jus, on commande avec un chalumeau.
Un chalumeau, tu veux dire la flamme?
Pas du tout, bah voilà. Le chalumeau au Libanais, au Liban, c'est la paille. En plus, le chalumeau, on est allé encore plus loin, on l'a libanisé, on dit chalumone.
Chalumone.
Bah voilà, je prends mon drink avec un chalumeau.
Tout ça avec des petits airs roulés un peu partout.
Oui, exactement.
Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les trois.
Merci, Ktir.
Merci, Ktir. À bientôt.
Merci à toi, Lucie. À bientôt.
Dounia Adni, est-ce que ça vous parle, alors, ce franc-banais?
Alors, ça me parle totalement, parce que moi, dans ma propre famille ou avec mes amis... marocain, on parle un espèce de mélange en fait, un mélange de français et puis de darija, donc qui est le dialecte marocain. Et en réalité, même avec mes amis français, parfois j'ai des expressions qui sont tellement ancrées qui ressortent.
Comme quoi?
Par exemple, Willy Willy. Donc je peux vous parler, vous dire voilà, oh là là, il pleut, Willy Willy, j'ai pas pris mon parapluie, Willy Willy. En plus, c'est une expression rigolote. Ou alors, yek, qui veut dire n'est-ce pas.
Et, Willy Willy, ça veut dire quoi du coup?
Willy Willy, ça veut dire oh mon Dieu, c'est la catastrophe en gros.
Ah, enfin, voilà, ça veut...
Et il y a la chouma bien sûr qui revient tout le temps. Sinon, il y a des expressions comme Glissi tranquille, donc sois tranquille.
Willy Willy, Dounia Adni, je suis désolée, c'est l'heure. Je rappelle que votre livre, L'Archouma, est publié chez Albin Michel. De vive voix, Lucie Bouteloup, avec à la programmation Cécile Lavolo et Laura Pinto à la réalisation. Vous pouvez nous réécouter sur toutes les plateformes et sur rfi.fr, sans oublier l'application Pure Radio.